Patricia Guimet, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'espère que tu vas bien.
Très bien, toi?
Ça va bien, merci. Bienvenue à Entretien journalistique.
Bien, merci de m'inviter.
Ça me fait plaisir. Ben, ça fait un certain temps qu'on voulait se parler. On se connaît, évidemment, là, depuis déjà quelques années. On ne donnera pas le nombre d'années, mais voilà, on se connaît depuis un certain temps. Nos jeunes années d'étudiants, étudiantes en journalisme. Mm-hmm. Voilà. Tu es maintenant, depuis un peu plus qu'un an, je pense, mm-hmm. dans ces eaux-là, tu es la rédactrice en chef du magazine Québec Science. D'abord, félicitations.
Merci beaucoup.
Et ça fait, bon, plusieurs années, ça aussi, que tu travailles pour Québec Science. Je pense que ça
depuis
fait...
Depuis 2015.
Voilà, donc 8 ans déjà, bientôt, si c'est pas déjà passé, là, 7-8 ans. Explique-moi un peu, parce que quand on parle de journaliste scientifique, on... Bon, évidemment, c'est ma perspective personnelle, c'est sûr, mais on va penser peut-être à Découverte à Radio-Canada, on va peut-être penser Scientific American, on va peut-être... mais c'est quand même peu, nécessairement, peu de références sans tomber dans la littérature scientifique peu réduite, c'est-à-dire les rapports d'études, les recherches...
qui sont pas du journalisme. Là,
non, effectivement, ils sont pas journalistes.
C'est ça.
Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, dans ce cas-là, de dire un jour, moi, j'ai envie de me lancer dans le journalisme scientifique?
Moi, je suis une amoureuse de magazines, à la base. Puis, je suis aussi une personne qui aime ça, les choses très difficiles. J'ai toujours cherché à faire des choses où je me place dans une situation complètement inconfortable, puis je sais pas, c'est comme un pattern un peu dans ma vie, puis avec Québec Science, j'ai été bien servie. J'avais appliqué pour un mandat temporaire en 2015, puis évidemment, j'étais pas particulièrement spécialisée en sciences à l'époque, même si j'écrivais déjà comme pour Québec Science comme pigiste. Mm-hmm. J'avais déjà fait des textes scientifiques, un peu plus scientifiques, pour Elle Québec, par exemple. Mais le rédacteur en chef de l'époque, Raymond Lemieux, lui aussi avait un certain un bagage scientifique, mais pour lui, t'es journaliste, tu t'intéresses à la science, à l'environnement, aux questions de société, ben, t'étais le bienvenu à Québec Science, puis c'était mon cas. Donc, j'ai eu une belle... il m'a offert une belle chance. Puis, pour de vrai, c'est quand je suis arrivée, puis que j'ai commencé à travailler, puis que j'ai trouvé ça très, très difficile. Là. La courbe d'apprentissage était quand même pas mal prononcée. Mais j'ai jamais été aussi heureuse professionnellement de toute ma vie, là. Vraiment, j'ai touché quelque chose en arrivant à Québec Science. C'est incroyable.
Ben écoute, content d'entendre ça, évidemment. On est toujours heureux que les gens soient heureux dans leur travail, surtout en journalisme. Justement, tu dis, bon, t'as repris les rênes de Marie Lambert-Chan, qui est maintenant à Radio-Canada. Mm-hmm. Peut-être pour les gens qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait une rédactrice en chef?
C'est sûr que ça dépend du média. Là, moi, je suis dans un magazine, dans un petit magazine avec une petite équipe, donc je fais beaucoup de choses. Le travail est peut-être moins segmenté qu'un rédacteur en chef dans d'autres médias, dans un quotidien, par exemple. C'est très varié, là. Donc, je fais vraiment toutes les étapes de production du magazine. Ça va des commandes, des textes aux journalistes pigistes, jusqu'à la révision des épreuves quand on est en montage des pages, tout ce qui est des budgets, de déterminer les budgets, toutes les réunions stratégiques, les rencontres stratégiques, où est-ce qu'on s'en va, le magazine, c'est quoi les prochaines avancées qu'il faut qu'on fasse sur le plan technologique, sont où nos faiblesses, et comment mieux attirer les lecteurs ou s'assurer que les gens s'abonnent, viennent pas juste nous consulter en ligne mm-hmm. quelques fois, comment leur donner envie de s'abonner. Donc, c'est très, très, très varié. Là, aujourd'hui, par exemple, là, on travaille sur le prochain, la couverture du numéro de juin. Ça, c'est un moment toujours vraiment le fun, puis qui suscite beaucoup de discussions. C'est vraiment, je pense que c'est la cerise sur mon emploi, le jour du cover. C'est vraiment le fun. Donc, c'est très varié. Je fais beaucoup de choses, beaucoup de... Bien, évidemment, j'ai une petite équipe, donc il y a un petit côté gestion aussi. Mm-hmm. On est... je suis là avec aussi une directrice artistique, deux journalistes à temps plein, puis une responsable du site web et journaliste à temps partiel. Donc, c'est ça notre équipe au complet. Puis évidemment, on appartient, le magazine Québec Science appartient à Vélo Québec. Donc, dans l'entreprise, dans l'organisation, on a accès évidemment aux ressources du marketing, la croissance numérique, la comptabilité. Donc, on n'est pas seul, là, mais la rédaction, on est cinq. Et évidemment, on a une grande équipe de collaborateurs, journalistes, pigistes, illustrateurs, illustratrices, photographes, réviseurs. Donc, c'est ça, là, je peux étendre. Le cercle est énorme, là, de la famille, mettons.
Oui, ben c'est parce que j'allais demander, est-ce que cinq personnes, c'est assez pour produire un magazine, un mensuel? Je comprends là qu'effectivement, vous n'êtes pas cinq, là, vous êtes plus...
Non, c'est ça. Là, je parlais d'emploi physiquement dans l'espace. Je croise cinq personnes, mais j'ai des relations très, très, très rapprochées avec beaucoup plus de gens.
Toi et moi, encore une fois, on a à peu près, je pense qu'on a le même âge, largement.
On a 36.
Voilà, exactement. Pile le même âge. Quand je rencontrais Ivano Demers, le précédent épisode, il a sorti une expression que je trouvais assez, à la fois intéressante et un peu déprimante. Parce que, bon, toi et moi, on a commencé nos études, on nous parlait déjà de la crise des médias, c'était le début. De Facebook existait déjà, Twitter venait d'arriver, ou en tout cas était en train d'arriver. Et dernier épisode, Ivano a parlé de la crise permanente des médias. Toi, tu es là dans un contexte où partout, les revenus publicitaires, ben c'est pas évident nécessairement. Tu disais tu voulais attirer les lecteurs vers le papier.
Forcément le papier, l'abonnement.
Ben l'abonnement, oui, effectivement. Ouais. Mais
papier ou numérique, là.
Voilà, mais largement, la publicité en ligne, ça ne rapporte pas énormément. Moi, ça s'appelait Facebook, Google et ainsi de suite. Comment tu perçois ça, ton rôle? Parce que là, toi, tu dis, bon, l'abonnement papier ou numérique, mais ça reste que... Tu mentionnais, toi, tu as beaucoup de plaisir à préparer la page couverture, par exemple. C'est encore très, très axé magazine, parce que c'est un magazine. Comment tu te vois là-dedans, en train un peu de défendre, de protéger ce format-là qui survit, mais clairement a des obstacles, là. Il y a des écueils là, sur la route?
Bon, là, il y a comme deux questions. Oui. Je vais répondre à la deuxième en premier. Pour moi, le magazine, c'est pas forcément un format, même si j'aime beaucoup travailler les covers, mais le magazine, c'est pas nécessairement un format parce que je consulte énormément de magazines sur le web. Donc, pas nécessairement ni dans un format papier, ni dans un format on reproduit le papier dans une application. Donc, vraiment, je parle d'articles. J'en consomme énormément, ça peut être très, très long. Puis, je vous dirais que le site web de Québec Science est abondamment consulté. On a énormément de lectures. Ça peut durer de nombreuses minutes aussi parce qu'on a des reportages en profondeur, tu sais, des reportages qui peuvent être assez longs. Donc, je pense que le magazine... Tu sais, j'ai sorti des données hein, pour toi. De 2019 à 2023, le coût du papier chez Québec Science a augmenté de 45%.
Ouf,
donc, okay. Tu sais, s'il y avait eu une indexation, il y aurait eu une hausse là, tu sais, à chaque année, mais quand même, 45%, ça te laisse deviner que c'est un gros morceau qui est parti du budget. Donc, c'est sûr que le papier coûte cher. Le faire une version papier coûte cher, donc tu sais, tranquillement, on voit des magazines qui réduisent le nombre de publications, mais En tout cas, nous, on n'est pas rendu là, mais c'est pas, je dis pas que je l'exclus pas pour, dans plusieurs années, là. Pour moi, le format magazine, c'est tant qu'il y a des gens qui nous lisent, moi, je suis heureuse, puis en fait, je suis une amoureuse de l'écriture magazine, de, tu sais, pour moi, le magazine, c'est comme un peu l'artisanat du journalisme. Ah, donc, okay. Il y a quelque chose de différent. On est probablement ceux qui passons le plus de temps à peaufiner nos textes, à, j'ai suivi une formation sur le fact-checking magazine qui se donnait aux États-Unis il y a peut-être 2 ans. Puis, je parle ici de fact-checking, là, vraiment la vérification des faits dans un texte, là, tu sais, le, chaque chiffre, chaque mot, chaque, tout est véritable. Pas le fact-checking là, comme on l'entend souvent aujourd'hui, le vrai ou faux, telle affaire. Et puis, tu sais, il nous présentait toute l'historique du fact-checking dans le monde des magazines. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, dans les plus grands magazines qui ont le plus de moyens, là, la rigueur est incroyable. Puis, tu sais, dans nos textes chez Québec Science, on n'est pas une grosse équipe, mais il y a beaucoup de paires de yeux qui repassent sur chacun des textes. On a comme un petit luxe du temps qui est un peu différent peut-être dans les médias d'information où, tu sais, faut produire à chaque jour, faut que ça sorte rapidement. Donc, ça peut avoir l'air un peu anachronique, là, en 2023, on est dans un monde où tout va vite, puis en fait, je suis la première à vouloir les informations rapidement, mais je pense que le magazine nous emmène un peu dans un autre espace-temps pour y aller avec le thème scientifique et la thématique scientifique. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui va... Ça va demeurer quelque chose qui intéresse les lecteurs. Là. Je pense qu'on lit pas de la même façon un texte de nouvelle qu'un texte de magazine, peu importe le magazine. Je trouve qu'il y a une valeur ajoutée. Puis je sais pas quelle forme, comment ça va évoluer le magazine. C'est sûr qu'on est en train de voir là, un transfert. Ça s'en va vers les plateformes numériques.
Mm-hmm.
Puis écoute, moi, je vais embrasser ce qui va arriver. Je vais aller là où il va falloir aller. C'est sûr. Mais ensuite, pour ce qui est de la crise, première question, la crise perpétuelle des médias, c'est ça?
Oui.
Ouais, moi, c'est ça. J'ai étudié entre 2006 et 2009. Donc, c'était vraiment la période de la crise économique. Pendant que j'étais aux études, les grands médias qui faisaient des stages pour les journalistes avaient tout coupé. Il n'y avait plus de stages. C'était quand même une période où, c'est ça, on avait l'impression qu'on arrivait à un moment où l'industrie était comme un peu en train de casser, de se briser. Donc oui, on parle de crise perpétuelle depuis ce temps-là parce qu'on est comme dans la transition numérique depuis comme 20 ans en fait, là, et plus même. Et d'ailleurs, je me permets d'ajouter un petit aparté, mais Québec Science est le premier média d'information au Québec à avoir eu un site web.
Ah, ben c'est bien ça.
Cyberscience, ça s'appelait. Et donc, c'est ça. Oui, on est en crise perpétuelle, mais en même temps, on n'a jamais eu autant de lecteurs. T'sais.
Mm-hmm.
Si on compte les lecteurs papier, application numérique de Québec Science, le site web, c'est sûr qu'il n'a jamais été autant lu en 61 ans. Donc, il y a quelque chose d'encourageant. Pour moi, l'espoir est là. Pas l'espoir, mais la motivation, en fait. Mm-hmm. Il y a tellement de monde qui nous lisent. Pourquoi on serait déprimé, tu sais? C'est sûr qu'il y a des défis de modèle d'affaires depuis très longtemps, puis ils changent tout le temps parce que la façon dont Facebook va nous mettre en valeur, là, tu sais, c'était comme ça, là, c'est plus comme ça, fait que là, faut miser sur l'infolettre, mais là, tu sais, comme tout change tout le temps,
mm-hmm.
C'est sûr que notre... le travail est pas ennuyant.
Non, clairement, effectivement. T'as dit plusieurs choses intéressantes. J'aimerais revenir d'abord sur... tu parlais de la rapidité de l'information avec, bon, en parallèle de la vérification et tout ça. On a eu comme invité il y a quelques mois maintenant un des membres de l'équipe de direction de Sparrow, qui est une infolettre scientifique en Angleterre, et qui m'expliquait que eux autres, ils sont sortis carrément, on décide de sortir de ce rythme-là de il faut produire, il faut réagir, il faut tout ça. Donc, eux autres, ils pouvaient prendre une semaine. Il y a une étude qui sort de chercheurs X, Y, Z. Ils pouvaient prendre jusqu'à une semaine pour lire l'étude, parler à des spécialistes et histoire d'ensuite sortir leur article, leur contenu là-dessus. Fonctionner un peu. C'est sûr que, bon, le magazine papier, il sort une fois par mois. On n'a pas le choix.
Ouais, on a d'autres contenus. On oui. suit les actualités quand même.
Oui, mais justement, est-ce que c'est un défi de dire... Parce qu'on s'entend qu'on peut sortir une affirmation ou même un mensonge, puis on parlera des fausses nouvelles puis de la désinformation scientifique tantôt, mais il peut y avoir cette affirmation-là ou cette nouvelle-là qui sort aujourd'hui. Là, tu dis, ouais, mais on aimerait ça réagir ou présenter un contenu qui est par rapport à ça, mais là, ça va prendre, tu sais, ça peut prendre 3, 4, 5 jours, le temps de faire les démarches et tout ça. Puis Dieu sait que des chercheurs, souvent, c'est pas sur le même beat que des journalistes. Ça, c'est...
Mais ils sont quand même, en tout cas, moi, je suis vraiment impressionnée. En général, des fois, j'ai des réponses dans la minute. Là.
Ah, bon,
oui, ben, appelez-moi.
C'est une bonne chose.
Donc, oui, non, on a, je suis pas. Je veux pas remettre en doute ce que tu dis, mais moi, mon expérience, c'est qu'ils sont rapides. Mais je suis d'accord, oui.
C'est ça, ma question, c'est est-ce que ce dilemme-là de dire faudrait réagir rapidement parce que c'est dans l'air du temps ou c'est le sujet du jour, mais ça nous prend du temps pour bien faire les choses?
Ouais, ben, je pense que Québec Science, en fait, je pense que les attentes de nos lecteurs quand on publie un texte, c'est justement qu'on ait parlé à quelques spécialistes.
Mm-hmm.
Donc, on sait qu'on va jamais battre, on va jamais être aussi rapide que Radio-Canada, Le Devoir, la presse, ou tu sais, les agences. On pourra jamais se démarquer par la rapidité, c'est impossible. Mais mm-hmm. on peut peut-être se démarquer... par l'aspect scientifique, on peut peut-être amener à aller gratter un petit peu plus loin, puis je le dis pas d'une façon condescendante du tout, là. C'est plus d'aller, tu sais, si tu viens sur le site de Québec Science, tu t'attends qu'il va y avoir de la science, puis que ça va être, on va t'expliquer, ou on va peut-être remettre en question la méthodologie d'une étude, tu sais, comme... Il y a cette attente-là, donc on le sait qu'on ne gagnera jamais à la rapidité, fait qu'on on y va avec nos forces, en fait. Puis notre force, justement, c'est d'appeler les bonnes personnes, d'aller voir ce qui était déjà là avant cette nouvelle-là, ce qui était déjà établi. Donc, c'est ça nos forces, puis on mise là-dessus. Puis, on est une petite équipe, donc on couvre pas tout du tout.
Non, évidemment.
Non, c'est ça. Chaque jour, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait traiter, mais qu'on fait juste pas.
Tout à l'heure, tu as dit, puis c'est une excellente nouvelle, que Québec Science n'a jamais été aussi lu. Tu disais, bon, dans tous les formats confondus. Mais avec, tu sais, c'est une très bonne chose, comme je dis, parce que, bon, depuis, toi, tu es arrivé en 2022, mais même avant ça, tu l'as vu. Avec la pandémie, les gens voulaient du contenu scientifique, voulaient comprendre. Et souvent, bon, on était peut-être un peu frustré parce qu'au début, on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Même les scientifiques, ça prend du temps pour faire des études, des tests et tout ça. Est-ce que ça t'a rassuré de dire, bon, ben, les gens, dans cette espèce de vent de panique qu'on a eu, les gens se sont tournés vers les autorités en matière d'information scientifique, vers Québec Science, vers les autres spécialistes? Ça t'a rassuré de dire, bon, on sert encore quelque chose.
Mm-hmm. Je suis très contente que les gens se soient tournés vers Québec Science, mais les gens se sont tournés aussi vers les médias en général. Il y a énormément de médias qui ont enregistré une hausse de la fréquentation. leur site ou une hausse des abonnements comme significative là. Donc je suis pas la seule, mais ça c'est vrai que c'est rassurant de voir que en période de crise le réflexe premier a été de se tourner vers les médias d'information disons plus traditionnels, mais évidemment il y a aussi d'autres types de contenus qui ont été très très populaires aussi là, mais on peut pas nier l'intérêt qu'il y a eu pour les contenus journalistiques, ça c'est clair.
Mais bon, parallèlement à ça, puis c'est un phénomène qui existait déjà avant, mais il y a une multiplication de la désinformation, des fausses nouvelles, tout ce qui s'est dit sur les masques, les vaccins, les puces 5G, de tout ce que tu veux. Comment tu as vécu ça, toi, dans ton prisme là, de journaliste scientifique?
Donc, pendant la pandémie ou ces dernières années en général?
Ben surtout pendant la pandémie. Là, je pense que ça s'est démultiplié à partir de 2020. Là. C'était déjà présent, comme je disais, mais ça a pris une ampleur assez effrayante là, depuis.
Quelques mois avant que la pandémie commence, en octobre 2019, Québec Science avait publié un long reportage de Marine Cornu qui avait fait le cover, justement, puis c'était écrit « Sommes-nous prêts pour la prochaine pandémie? »
Bon timing.
Puis Marine est allée à l'OMS, elle avait fait vraiment des trucs, elle avait vraiment fait le truc mondial, elle est allée à Winnipeg, au laboratoire qui s'occupe des pathogènes dangereux. Puis en fait, la fin de son texte se terminait en disant, elle avait interrogé le président de l'OMS, puis le texte se terminait sur une citation où il disait... S'il y a une pandémie, ce qui va être le plus difficile, ça va être de combattre la pandémie d'information, de fausses informations, en fait. Mm-hmm. L'infodémie dont on parlait finalement quelques mois plus tard. Donc, je pense que c'était quelque chose qui était attendu, c'était quelque chose qui était déjà présent, c'est quelque chose qui arrive dès qu'il y a une crise. Tu sais, par exemple, j'ai déjà écrit sur un accident nucléaire qui avait eu lieu au Canada, à Chalk River, puis le lendemain, là, dans les journaux, il y avait toutes sortes de fausses théories de tels spécialistes qui avaient déclaré telle chose. Il y avait des mensonges de l'industrie qui avaient été déclarés aussi c'était dans les années 50, en fait. Puis, je pense que quand il y a une période de crise, des moments difficiles, des décisions qui doivent être prises par des autorités ou par des entreprises, c'est sûr, tu sais, c'est pas nouveau tout ça. Peut-être qu'on l'a vu de plus près pendant la pandémie, mais je sais pas, je veux pas dire que ça existe pas, que j'ai pas été confrontée, mais j'aime ça regarder justement, j'aime ça me dire qu'il y a beaucoup de monde qui se sont bien informés aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de monde qui doute en ce moment de toutes sortes de choses, puis tu sais, faut replacer peut-être les bons morceaux au bon endroit pour bien des sujets, mais je sais pas comment le dire, excuse-moi.
Mais qui reste quand même, tu disais toi-même, bonne partie de la population qui a eu le réflexe, c'est bon, ça vaut pour 2020, ça vaut pour d'autres moments aussi. Il se passe quelque chose qui est inquiétant, on regarde les médias. Et généralement, on fait confiance aux gens, malgré la minorité très, très vocale.
Oui, oui, puis mais moi, j'arrive pas à me dire que les gens qui j'arrive pas à juger ou à mépriser les gens qui, on dirait d'un certain sens, tu sais, je peux comprendre que certaines personnes en viennent à croire à... J'ai de l'empathie pour tout le monde qui, tu sais, on vivait quelque chose de super intense. On cherchait à comprendre. Je pense que.
Ben, c'était du jamais vu en 100 ans aussi.
Ouais,
on avait.
Ouais.
Puis c'était dans un contexte où, tu sais, c'était. On s'entend que la grippe espagnole, c'était complètement différent. C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, exact. Évidemment. Puis là, on arrive dans un contexte où tout est mondialisé.
Exact.
Et qu'on est bombardé constamment d'images, puis d'annonces, puis tout ça. Puis
Moi, ce qui me dégoûte, ce qui me dégoûte et me fâche, c'est les gens qui vraiment... ce qui me dégoûte et me fâche, c'est les gens qui répandent des fausses informations, qui répandent la peur, tout ça dans le but d'avoir un gain économique, de vendre des cossins, d'avoir un grand fan club qui vont leur apporter plein de clics. Ça m'écœure. Mais les gens qui peuvent embarquer là-dedans parce qu'ils cherchent des solutions, ces gens-là, je pourrais jamais les mépriser. C'est ça que je veux dire.
C'est très clair, ça va directement droit au but. Une excellente réponse. Avec tout ça, parce que là, tu disais, bon, t'as commencé ton poste, tu t'es lancé un peu dans une aventure assez, assez rocambolesque. T'as dit que t'aimais ça, là, on espère, parce que sinon, ça va être un peu pénible. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Comme objectif, tu dis, bon, ben dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être, bon, si t'es là pendant encore autant d'années que ça, on le souhaite peut-être, si c'est ça que tu veux faire, bien sûr. C'est quoi ton grand projet pour le magazine?
Ça va être de poursuivre la transition numérique. Puis je trouve ça tellement plate à dire, mais c'est vrai, elle est pas achevée, puis c'est quelque chose qu'il faut continuer, qu'il faut amener jusqu'au bout. Donc, c'est ça. Là, en ce moment, on a des réflexions sur un mur payant, différentes stratégies. Donc, il y a ça. Puis, l'autre aspect qui me motive énormément, c'est que, tu sais, on est une petite équipe. Je trouve que la gang fait des choses formidables avec les moyens qu'on a. Et je ne sais pas, j'aimerais tellement ça qu'on soit plus connu, qu'on soit davantage connu. Puis, c'est quelque chose que... sur quoi je vais travailler.
Ben oui, il y a cette question-là aussi. Effectivement, je te disais en début d'entrevue, on connaît quelques médias scientifiques, mais effectivement, on ne connaît pas tant que ça parce que souvent, c'est... T'as même peut-être une autre question, mais la couverture scientifique dans les grands médias a été réduite du fait notamment des compressions au fil des années parce que on va pas nécessairement couper dans l'os, c'est-à-dire la politique, les enjeux de société, tout ça. Bon, on va couper peut-être dans qui est un peu la chair autour de l'os, c'est-à-dire bon, la science, la culture. On fait peut-être sans doute pas par choix parce qu'il faut prendre des décisions éventuellement. Mais ça, est-ce que tu as espoir que ça revienne, que tu dis finalement, on se rend compte que...
Bien.
Je veux dire, c'est jamais parti complètement, mais...
Non, mais j'ai l'impression, en fait, que c'est vraiment une bonne époque, là. On peut parler de Radio-Canada, où je trouve qu'il y a vraiment un accent qui est mis sur les sciences, sur l'environnement, le pôle environnement de Radio-Canada, l'arrivée de Marie-Laure Marchand, qui est vraiment impliquée aussi avec les nouvelles, la salle des nouvelles. Puis qu'il y a une expertise. Je pense qu'il y a, quand même un très grand intérêt, une prise de conscience dans les dernières années de l'importance de la science, d'avoir des gens qui comprennent bien les études, qui peuvent bien les lire, puis bien faire la part des choses aussi. Donc, en fait, moi, je suis super... en fait, je trouve que c'est vraiment une bonne époque. C'est vraiment un bon moment, une carrière d'avenir, un journaliste scientifique. Tu sais, pour de vrai, au Québec, il y a quand même des bonnes émissions. Mm-hmm. Dans les quotidiens, il y en a des journalistes scientifiques. On a un magazine de science. Il y a des magazines de jeunesse. Donc, il y a quand même, c'est un petit milieu, un petit réseau, mais c'est quand même pas rien non plus pour le Québec. Je veux dire, le bassin de lecteurs francophones n'est pas immense en Amérique du Nord, donc je trouve que proportionnellement, c'est pas mal.
Mélissa Guilmette, rédactrice en chef de Québec Science, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Et évidemment, ceux qui nous écoutent, merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez rattraper tous les autres épisodes sur pieuvre.ca, bien entendu, également sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de Pieuvre. Ça vous donne accès à tous les contenus. Ça s'en va directement dans votre boîte de réception du samedi. Et si vous aimez nos podcasts, si vous aimez ce que vous lisez aussi sur Pieuvre, encouragez-nous sur Patreon. Ça coûte 2 $ par mois. En fait, ça commence à 2 $ par mois. Et si vous payez 5 $, vous avez aussi accès en primeur à des épisodes du balado Rembobinage. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.